Interview.
2 jours. L'association Di Hawaï organise le festival dessiné du 10 au 12 mars à Di. Ainsi, au lieu des petits fourneaux, rue Joseph Reynaud, dans l'après-midi du 11 mars, était animé d'ateliers monstres et BD, puis suivi d'une rencontre avec 2 artistes auteurs de bandes dessinées. Sophie Guérive, qui expose des planches au petit fourneau, et de Delphine Panic, qui présente les siennes à la boutique The Uchi Kuchi jusqu'au 14 avril. Cette rencontre était menée par Gaëtan Dorémus et Florence Bourinet. Chacune ainsi parlait de son travail, de son œuvre et de leur manière de créer.
Bon, on va commencer. Alors moi, je vais m'occuper d'essayer de discuter avec Sophie, mais tout le monde peut lui poser des questions. Voilà, donc Sophie, on est content de te recevoir avec Delphine dans le cadre de ce festival. Je vais essayer de te présenter rapidement, dire que tu es née en 83, que tu fais des livres depuis une vingtaine d'années à peu près. Ça doit faire ça, hein. Tu as commencé par des livres où tu étais encore étudiant, tu travaillais déjà sur des blogs, etc. Et puis tu as publié tes premiers bouquins chez Varum. Après, chez Yon, chez Shampoing. Yon, alors, pour certains d'ici connaissent, puisque c'est les éditions qui sont tenues par Benoît Pretessay, qui était invité de DIY il y a quelques mois dans le cadre du festival Partir en Livre. Voilà. Et puis, après, voilà, il y a eu cette rencontre qui était déjà bien entamé puisque tu connaissais l'éditeur qui était dans ta classe quand tu étais aux Arts Déco Strasbourg, mais avec ton éditeur, principal, on va appeler ça comme ça, de 2024. Donc qui est un éditeur qui a grandi un peu en même temps que ses premiers auteurs, quoi, hein, où tu as pu développer ta série la plus emblématique qui est Tulip. Alors pour ceux qui connaissent pas Tulip, et puis pour la radio parce qu'il n'y a pas les images, Tulip c'est une sorte de Il y a plein de tomes, hein. Voilà, il y a Tulip 1, 2, 3, 4, comme ça fait des titres faciles à chercher. Quand on a le premier, on a les 4 titres qui suivent, mais pas seulement. Il y a Eden, après, le Club des Amis. Mais l'idée, c'est que c'est un univers qui ne se résume pas à un héros à qui il arrive des péripéties, mais plutôt c'est plutôt une œuvre monde où il y a des personnages qui évoluent, il y a un ton, un rythme bien particulier qui marque un peu ta production, peut-être. Voilà, disons que c'est le fait que tu développes cette série et après d'autres uniquement des one-shots montre que tu t'y es peut-être plus retrouvé, ou en tout cas ou plus sur une durée plus longue, quoi, 10-15 ans, je sais pas, ça, le premier date de...
Non, c'était 2016,
2014, ouais, donc ça fait 10 ans, quoi.
Ça fait presque 10 ans.
Ouais. Peut-être que tu peux nous parler un peu de ce... Voilà, comment ça fonctionne un ouvrage de Tulip, comment tu le commences, comment tu le poursuis, comment tu le finis, et puis si tu peux peut-être te présenter, puisque c'est pour la radio, présenter les personnages de Tulip.
Alors en fait c'est un ensemble de petits personnages qui sont des animaux, donc avec principalement un ours qui s'appelle Tulip. Ils ont tous des noms de fleurs, et il y a un serpent qui s'appelle Crocus, un oiseau qui s'appelle Violette, et puis toute une tripotée d'autres animaux qui sont des personnages plus secondaires. Donc à la base, moi j'avais fait des strips qui étaient vraiment pour Internet. Il n'y avait pas de but de publication papier. Donc c'était des trucs très courts en 4 cases. Et petit à petit, ça a pris un peu d'ampleur. J'en faisais presque tous les jours. Et j'ai fini par arriver à la limite de ce format-là. Et donc à passer à 6 cases, puis 9 cases. Et puis maintenant, j'en suis à 16 cases par page. Donc là, je crois que je suis arrivée au bout. Mais donc après, c'est après coup que l'éditeur s'est intéressé à ça. Et que finalement, on a fait des tomes papier. Mais je continue à les publier en priorité sur Internet. Et d'attendre... ouais, c'est plus ça qui me rythme. Et après, quand j'en ai un certain nombre, ça peut faire un nouveau tome, éventuellement.
Voilà. Pourquoi des fleurs?
Moi, pourquoi des fleurs?
J'ai compris il n'y a pas longtemps. que c'était des noms de fleurs.
Et ouais, et parce qu'il y en a que les gens ne savent pas. Par exemple, le corbeau s'appelle Cosmos, qui est aussi une fleur. Il y a plein de trucs. Mais pourquoi des fleurs, je ne sais pas. Je pense que tulipe, c'était juste que ça sonnait bien. Et qu'après, ça a découlé de là. C'était une petite blague. Et voilà. Maintenant, c'est devenu un peu une règle que je suis obligée de suivre. Donc, quand j'ai un nouveau personnage, je suis obligée de me dire, mince, quelle fleur pourrait marcher et tout. Et voilà.
Peut-être tu peux nous parler, je sais pas, de leur caractère ou comment ça je te demandais comment ça a démarré. Est-ce que tu réfléchis par personnage, c'est du pur instinct et t'analyses jamais ce que tu fais, même pas une fois que c'est fini, ou est-ce que tu produis et après tu sélectionnes? Comment on fait moi ça c'est voilà, c'est une vraie question. Comment on fait une œuvre monde qui est à la fois cohérente et où on sent qu'il y a une grande liberté, et en même temps c'est constitué de plein de petits opus. Donc pour moi elle a une grande cohérence, ce monde de tulipes, il a une grande cohérence. Alors est-ce que ça se construit par empilement ou
Oui, je pense que c'est vraiment de l'empilement. J'ai pas une vision d'ensemble au départ. J'avais pas du tout prévu de faire autant de tomes et ni de partir dans d'autres directions alternatives et tout ça. Oui, c'est moi quand j'étais petite, je lisais beaucoup de strips comme Peanuts et Mafalda et tout ça. Et j'aimais bien cette accumulation de petites histoires qui faisaient une grande histoire et j'avais trop envie de faire la même chose. Ça me paraissait plus accessible peut-être de faire des petites histoires, mais en même temps de garder un univers qui devient familier et aussi pour le lecteur qui devient un petit peu réconfortant. Donc j'ai fait ça sans anticiper. Et en fait, depuis hier que je suis arrivée, il y a plein de gens qui me disent « Mais comment te viennent tes idées ?» Et voilà. Et ça, je sais pas du tout. C'est vrai que c'est un petit peu comme des espèces de trucs de multiples personnalités où chaque personnage est une partie de moi, peut-être. Ou, enfin, des réflexions que je me fais. Et là, je me dis « Ah, ça serait plutôt Tulipe qui dirait ça, ou plutôt Crocus. » Mais c'est en le faisant que ça vient assez naturellement, et même des fois j'ai l'impression qu'ils parlent tout seuls et que j'essaye de suivre ce qu'ils disent. Donc je contrôle plus trop la situation. Et il y a des gens après coup qui font des analyses assez chouettes. Enfin, des fois je me dis waouh, c'est impressionnant, mais j'avais pas pensé à ça.
Tu as quand même leur caractère en tête, parce que
ouais, mais c'est pas
la même chose que Cosmos.
Oui, bien sûr, mais c'est pas forcément formulé, quoi. Si tu me demandes d'expliquer, je vais réfléchir beaucoup avant de pouvoir vraiment te dire ah oui, c'est vrai que c'est ça, c'est un peu instinctif. Voilà.
Parce que pareil, il y a des auteurs qui pourraient réfléchir en personnage ou en thème. Alors j'imagine que toi tu vas pas être une auteure, peut-être je me trompe, mais je crois pas, t'es pas une autrice, pardon, qui réfléchit en thème. Pourtant il y en a qui reviennent quand même très souvent. Coup de bol, la mort revient très souvent, et c'était le thème de cette année pour DIY. Mais moi j'en ai été plein, mais ils sont aussi portés par des personnages, quoi. Tulipe et son arbre muet, ça va être des discussions peut-être plus sur la... Enfin là, ça tourne autour du non-dit, du sens de l'existence, etc. Après, t'as beaucoup de trucs autour du soin, avec ce personnage du caillou, médium, docteur... on sait pas trop. Il fait à peu près tous les métiers du soin possibles. Et voilà, t'as beaucoup de thèmes, ça, qui sont portés surtout par pas forcément par des situations, mais par des personnages. Est-ce que ça vient du... Tu dis, tiens, le caillou pour être docteur, et puis c'est parti, et ça se construit sur un livre entier, ou les histoires d'amour compliquées entre Crocus et Mimosa, tu vois, comment tu les... Est-ce que tu t'inspires de... Parce que ça fait aussi penser vachement à des dialogues de cinéma, pas forcément de... Enfin, il n'y a pas que la BD là-dedans, tu...
Je sais pas trop quoi te répondre, parce que c'est vraiment instinctif, c'est un truc où je vais avoir plutôt une idée un peu abstraite en tête, avec peut-être éventuellement des dialogues, et puis c'est en l'écrivant que je me dis « Ah ben ça, c'est forcément un tel qui va dire ça, et ça peut pas être lui qui dit ça ». Il y a en fait, ils ont chacun quand même des thématiques qui reviennent, ou des caractères qui se prêtent plus ou moins à certains thèmes. Donc ça me paraît évident, et c'est pas forcément interchangeable. Des fois, si, je me dis « Ah, ça pourrait être soit lui, allez, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce personnage-là, donc je vais mettre celui-là ». Mais souvent, c'est quand même un petit peu naturel. Et voilà, tu me parles de cinéma et tout ça, donc je ne suis pas très cinéphile, je ne connais pas très bien. Donc je pense que je m'inspire plus de conversations ou de choses qui se passent ou d'idées que j'ai comme ça dans la vie de tous les jours.
Tu as des carnets, tu notes des bouts de dialogue, etc.
Pas forcément, ça peut venir... des fois je le fais tout de suite parce que ça s'y prête. Des fois j'ai dans mes notes de téléphone, j'écris trois phrases et des fois je retombe dessus en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là. J'ai des trucs à absurde, mais voilà, c'est oui. Des fois, je peux noter juste quelques dialogues et puis me dire, ah, je vais peut-être en faire quelque chose un jour. Et voilà, des fois, non, j'en fais rien.
Oui, parce que effectivement, il y a ce truc du dialogue quand même. C'est une BD, c'est des tes ouvrages, c'est comme des même si t'as fait des bandes dessinées d'aventure aussi, comme Crépin et Janvier, comme Capitaine Mulet, comme. On peut dire que le club des amis, c'est un peu des aventures aussi, mais c'est quand même voilà, c'est quand même beaucoup de gens qui parlent quoi. C'est très peut-être très très français quoi. Disons que je me souviens que ton ours, il a été comparé à l'ours Barnabé. Je sais pas s'il y a certaines personnes qui connaissent, qui est une série aussi de bande dessinée comique avec un ours, mais pour le coup c'est un type d'humour qui n'a vraiment rien à voir. C'est un humour de situation, un humour absurde. Et toi, l'absurde, il vient plutôt de case muette. D'ailleurs, c'est peut-être des questions qu'on pourra poser aussi à Delphine. Votre usage de la case muette. Il y a énormément de cases muettes dans vos ouvrages. Ça, c'est la question qui peut faire la transition entre les deux, peut-être. Mais ouais, voilà. Est-ce que tu... Moi, ça m'interroge parce que je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas le dessin qui gouverne le... C'est d'abord le dialogue, quoi. C'est d'abord les personnages, malgré tout.
C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il valait mieux que j'écrive seulement, que je dessine seulement. On comprenait mieux, globalement. Il y a eu un moment où, quand j'étais enceinte de mon deuxième, j'étais immobilisée pendant quelques mois. Donc, je ne pouvais pas vraiment me pencher sur mon bureau pour dessiner. Et pendant toute cette période-là, j'ai juste écrit, en fait. Et en fait, je sautais la ligne à chaque case. Et ça faisait des haïkus. Et je les ai publiés tels quels sur les réseaux. Et en fait, ça marchait très bien. Je me suis dit, pourquoi je m'embête à dessiner? Et voilà. Et en fait, je pense que c'est vraiment pour que les gens accrochent mieux avec l'image. Mais c'est assez inutile. Bien que, si je reviens à ton truc des cases muettes, ça introduit quand même un rythme qui me permet aussi d'ajouter des blancs. Ce qui est plus difficile avec seulement du texte. Mais j'avais lu des trucs, y avait des... Alors je sais plus quel mouvement américain avait fait dans les années 70, là, des textes avec des espaces, des trucs dans la page. Et ça m'avait vachement intéressé parce que finalement, ça remplaçait les cases, les images. Il y avait des sauts de ligne, des changements de typo qui jouaient ce rôle. Donc on pourrait très très bien faire ça aussi. C'est juste que voilà, il se trouve que je suis dessinatrice, donc voilà.
Parce que est-ce que parfois quand tu construis tes on peut presque dire des strips, même si c'est en 6 cases ou parfois en 3 pages, mais j'ai l'impression que ça fonctionne vraiment. Le rythme, il est quand même assez travaillé. Tu rajoutes une case, t'en enlèves une. Est-ce que c'est vraiment tu fais, si ça va pas, tu recommences.
Après, le problème, c'est que j'ai mon gaufrier qui est déjà tout prêt et je suis obligée de le remplir et que ça aille d'un bout à l'autre et que ça tombe juste. Donc évidemment, je suis obligée de calculer. Quand j'écris à l'avance, je compte 16 lignes comme ça. Et donc je suis obligée de parfois d'en ajouter une, d'en enlever une, d'utiliser les blancs ou d'utiliser le phrasé pour que ça soit bien découpé. Donc ça, c'est une contrainte. Mais bon, ça m'oblige à réfléchir un peu plus à ce truc-là pour que ça tombe juste.
Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler du... Voilà, ça fonctionne sur le mode de la fable animalière, même s'il n'y a pas de morale à la fin. Ça peut faire appel à la morale, mais il n'y a pas de... C'est pas moralisateur, en tout cas. Et donc, c'est un code qui peut être issu... On peut apparenter ça à l'enfance, le fait d'utiliser des personnages qui sont des animaux anthropomorphisés. J'ai lu des interviews anciennes où tu disais que toi, vraiment, les enfants, tu ne voyais pas comment faire des livres pour les enfants, des BD pour les enfants et tout. Il se trouve que maintenant, tu en fais. Et que bah voilà, moi ces livres, je les ai lus avec mes enfants. Ils pigent pas tout, mais donc comment tu te situes par rapport à ce rapport à l'enfance ou à l'évidence de l'enfance dans ton boulot?
C'est vrai que pendant très longtemps, c'est un truc que j'osais pas toucher du tout parce que j'avais essayé et que c'était vraiment nul. Mais en fait, entre-temps, j'ai eu des enfants et je pense que ça a un petit peu déclenché un truc. Et je me suis rendu compte que bizarrement, en fait, ce que j'aime vraiment, moi, c'est les livres pour enfants, les trucs. Et que j'avais donc pas besoin d'écrire pour un public spécifique, que j'avais juste à écrire pour moi, sans avoir essayé, sans essayer d'avoir l'air trop plus que ce que je suis. Et en fait, ça tombe dans cette tranche d'âge, plus ou moins. Donc voilà.
Tu veux dire que pendant 10 ans, tu as fait l'intéressante et que maintenant, enfin, tu fais du Sophie Guérive?
Ouais,
donc on n'aura plus jamais de Tulipe 1, 2, 3, 4 et pas de 5. Ça sera. Si, quand même.
Il est à moitié fait le ça.
Il est à moitié fait le la suite d'Eden, c'est ça?
Non, enfin, c'est une longue
histoire. Oh, ouais, d'accord. Parce que là, c'est un peu hollywoodien. C'est-à-dire qu'il y a des spin-offs, il y a des préquels, des séquelles. Il y a le personnage jeune, etc. Ça devient. C'est même plus un monde, c'est une galaxie, là.
Oui, en fait, c'est l'inverse. C'est que j'ai envie de faire plein de trucs différents. Et que je pourrais très bien le faire dans un univers différent de Tulip, mais que maintenant que j'ai fait ces persos et qu'il y a un truc qui fonctionne, il n'y a aucune raison que j'en sorte. Et que du coup, je l'intègre dedans et que j'arrive à trouver quelque chose. Enfin, au lieu de faire plein de mondes différents, j'étale un peu celui-là. Et ça fonctionne comme ça aussi. Mais ça pourrait être d'autres personnages. Voilà.
Peut-être je voulais qu'on parle un peu de dessin aussi. Et y a ce rapport quand même. Dans ton dessin, il y a ce rapport au médiéval quand même qui est vachement présent dès le début dans par exemple dans les livres que tu as fait chez Benoît aux éditions Yon, il y a vraiment un rapport évident dans le mode de représentation faussement à plat avec des perspectives tronquées, etc. Et dans le fait d'utiliser des petits traits qui est un code quand même très ancienne gravure, etc. Donc il y a vraiment ce rapport au médiéval qui est très présent dans certains livres et plus du tout dans d'autres où tu passes carrément une ligne claire où il n'y a plus une seule hachure, un seul petit trait. En quoi ce mode de représentation t'a marqué? Et puis en fait, vous n'êtes pas tant que ça tu vois, dans Crépin et Janvier aussi, je pense que... Je confonds tout le temps Mulet et Crépin et Janvier, mais on retrouve aussi, on retrouve aussi ce mode de représentation que tu perds peut-être un peu dans le Club des Amis, par exemple. Et que tu retrouves vachement dans Eden.
C'est des vagues, ça passe.
Oui, ça c'était mon style numéro un, on va dire. Avant que je passe à travailler pour le web spécifiquement, donc je voulais que ma ligne soit la plus claire possible et j'ai donc simplifié de plus en plus pour que ça soit hyper lisible. Et je suis revenue à ça sur Eden parce que c'était un livre qui se passait au Moyen-Âge, donc vraiment ça s'y prêtait trop, je pouvais pas... J'aime bien dessiner comme ça, c'est agréable, mais des fois ça s'y prête pas. Je trouve que ça ralentit la lecture, et donc c'est... Quand on a une histoire à raconter qui doit couler rapidement, je préfère utiliser une ligne claire, et quand on doit plus s'attarder sur le dessin, je préfère passer plus de temps dessus, du coup.
Je t'avais ramené un livre, tu peux regarder, de Olivier Charpentier, qui a un... Je ne sais pas si tu connais. Et donc, c'est quelqu'un qui est... C'est un peintre et illustrateur qui est vachement... qui est imbibé de culture de graphique médiévale. Et quoi qu'il fasse, ça ressort aussi dans son boulot. Voilà. Et j'avais encore une question sur ton rapport au... Voilà, peut-être tu peux nous parler des prochains livres que tu vas faire et ton rapport au mainstream, puisqu'on sait que tu as fait un livre qui est là, qui est un Spirou, qui en a un deuxième qui a été scénarisé, donc là t'es co-scénariste, mais c'est vrai que avant de, voilà, hier tu nous as parlé d'autres projets que t'allais faire, est-ce que tu peux en dire un mot et après on laissera la parole à Florence et Delphine.
Là c'est vrai que je travaille depuis un petit moment avec Dupuis. Donc on a fait moi je suis juste co-scénariste là actuellement, donc on a fait un Spirou, on travaille sur un deuxième qui est en train d'être dessiné. Et après je vais probablement travailler sur une nouvelle série qui est centrée autour de Sécotine, un des personnages secondaires de Spirou. Tu me demandes mon rapport au mainstream, je sais pas. En fait j'ai jamais vraiment fait la distinction. Je veux dire, je pense qu'on peut tout faire. Après c'est juste une question de... Enfin, je confonds un peu, je vois pas vraiment... Oui, il y a des gros éditeurs, des moins gros, les petits deviennent gros, les gros deviennent petits, ça change d'une génération sur l'autre aussi, et je pense que c'est pas incompatible du tout. Voilà.
Ok, merci. Vous avez des questions?
C'était une question à propos des blogs BD. Comment tu vois un peu l'évolution ? Parce qu'il y a une époque, avant l'arrivée des réseaux sociaux, c'était vraiment le médium idéal pour que les gens lisent des BD. Est-ce que maintenant, tu as l'impression que les blogs ont été un peu désertés ou pas ? Toi, tu as toujours un lectorat qui est très présent. Comment tu vois et comment tu vis, toi, cette évolution-là ?
C'est vrai que les blogs, il n'y en a plus beaucoup. Je crois qu'on est tous plus ou moins passés sur les réseaux. Moi, j'en ai plus. C'est vrai que c'était un peu plus lourd à tenir. Et donc, je suis assez volontiers passée sur les réseaux et j'ai publié tout sur les réseaux. Maintenant, tu as des trucs qui s'y prêtent hyper bien, comme Instagram, avec les trucs de slide et tout ça, ou qui se prêtent hyper bien aux BD courtes. Je pense que c'est un peu pénible parce que ça change tout le temps de réseau et qu'on perd nos archives et qu'on doit tout recommencer et que voilà, ça, on se perd un peu dans plusieurs trucs en même temps. On est obligé de suivre un peu cette évolution, mais je pense que la publication sur Internet, elle est toujours aussi vivante. Il y a aussi beaucoup de gens qui publient maintenant avec des systèmes comme Patreon et tout ça, donc qui passent même plus par l'édition classique. Ce qui peut être cool aussi. Enfin, moi, je trouve que les deux systèmes sont chouettes. Et c'est sûr qu'on ne peut pas du tout faire l'impasse sur ce qui se fait en ligne. Mais non, il y a vraiment trop de trucs vraiment chouettes aussi. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu.
Je me demandais si le fait que tu as un rapport direct avec les lecteurs et des commentaires, c'était quelque chose qui t'a boosté ou parfois découragé. Ou c'est quoi le rapport avec justement les lecteurs ?
Mais en fait, moi j'aime bien ça parce que vraiment ça me cadre un peu, j'ai envie de dire, parce que ça me permet de voir des réactions assez en direct et que parfois il y a des choses qui marchent moins et ça me permet de me rediriger vers quelque chose d'autre. D'autres fois des choses qui marchent alors que je ne m'y attendais pas et je me dis je devrais creuser un peu là-dedans. Et il y a même, ça c'est arrivé quelques fois que des commentaires me suggèrent des idées que j'ai utilisées ou que j'ai un peu orientées en fonction de ça. Donc j'en joue un peu, j'aimerais même le faire plus, faire un truc un peu plus interactif pour faire un jour peut-être une BD qui soit vraiment faite avec les lecteurs, avec les gens des réseaux, ça pourrait être rigolo. J'ai pas encore le fonctionnement en tête, mais ça pourrait être assez chouette.
L'an 01 de Tulip.
Delphine, oui. T'es prête? Eh bien, moi je vais être moins bavarde. Je vais te. J'avais envie en fait que tu nous parles de ton parcours parce que j'ai l'impression qu'il fait écho aussi avec tes BD. Si tu veux nous parler de ton parcours.
Mes études quoi, tout ça tu veux dire.
Pas forcément pas ton CV. Hein,
tu veux pas mon CV.
Pas ton CV. Non mais par où t'es passé ouais. Pour arriver en fait à la BD.
Oui, alors ma petite originalité, j'ai l'impression en fréquentant mes collègues, c'est que moi j'ai fait une fac de lettres modernes. J'ai essayé d'aller aux Beaux-Arts, ça n'a pas duré longtemps. Et donc je me suis retrouvée en lettres où j'ai fait quand même, j'ai fait 5 ans quoi. Et donc, c'est vrai qu'on est rare dans la BD à venir de ce cursus-là. Moi, je trouve ça d'une grande logique, vu que, on fait des livres et on écrit des histoires. Et voilà, ça fait que, effectivement, moi, je suis très... Alors, je ne sais pas si mon travail en lui-même est très littéraire, mais en tout cas, je suis très inspirée par la littérature classique, enfin les classiques en général, j'en lis beaucoup, c'est souvent, presque chacun de mes livres a été inspiré par la lecture d'un classique de la littérature. Et donc mon premier bouquin, ça a été assez logiquement une adaptation de Virginia Woolf, d'Orlando.
Tous tes livres viennent d'une inspiration, Le Vol Nocturne, par exemple.
Le Vol Nocturne, c'était Le Maître et Marguerite de Bulgakov. J'avais lu ça. Et alors, c'est clairement pas une adaptation, Mais c'est en lisant ce bouquin-là que ça m'a donné envie de, bah, voilà, de travailler sur les sorcières, le fantastique, et en fait de faire, de travailler en bande dessinée sur un fantastique qui soit pas le fantastique classique dans la bande dessinée, donc c'est-à-dire la fantasy, l'heroic fantasy et tout, mais de le travailler plus à un niveau formel, comme on peut trouver dans la littérature. Donc un fantastique qui peut... qui va être dans la forme, donc... très inspiré du Maître et Marguerite, où il y a différents... Les personnages, ils peuvent passer d'un espace... Enfin, il y a beaucoup de jeux sur l'espace-temps. Ils peuvent passer d'un endroit à un autre. Et puis, il y a des moments où ils peuvent passer même d'une temporalité à une autre. Et le livre, il continue comme ça, avec une grande dynamique. Et on est vraiment dans le fantastique, et ça fonctionne. Mmh. Et ça a été ça, le début de ce livre-là, ouais. Mmh. Ouais.
Et comment tu construis tes BD, tes livres ? Est-ce que...
Moi, en général, je travaille régulièrement avec des revues de chez les éditeurs. Donc, chez Misma, je participe à la revue. Maintenant, chez Cornelius, je participe à Nicole à chaque fois. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est que je fais quelques pages pour une revue, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Et là, quasiment à chaque fois, je trouve un personnage qui me plaît. Et après, je me rends compte qu'en fait, ce personnage et que cette ambiance que j'ai développée, je ne l'ai pas fait pour rien. Mais en général, ça vient plutôt après, quoi. Voilà. Et donc, je me dis, OK, je développe ça pour un livre. Okay. Et donc là, deuxième phase, je fais beaucoup de recherches. Je lis beaucoup de choses, je fais beaucoup au cinéma, j'écoute des trucs, enfin j'ai une thématique. Je travaille presque, moi, mes livres comme je travaillais quand j'étais étudiante en littérature comparée, en fait. Je lis des trucs, je prends des notes, je prends énormément de notes, je remplis des carnets, donc sur une thématique. Après, je classe. Oui.
Après, je fais des points.
Je fais des points, exactement. Non, mais c'est vrai, presque comme une dissertation. Je fais des grandes parties. Bon, non, là, ça a l'air un peu... j'exagère un tout petit peu. Disons que c'est l'idée globale, quoi, quand même. Et après, une fois que j'ai ça, je ne vais pas forcément suivre ce que j'ai fait. Mais par contre, je l'ai, quoi. Voilà. C'est quand même une base qui est vachement importante que je vais suivre. Quand même, je vais suivre cette grande ligne. Et j'avance, quoi, dans mon livre, en sachant quand même où je vais. Même si je connais pas du tout. Je sais pas comment mes personnages vont évoluer, parce que, même comme dit Sophie, c'est vachement intéressant. On crée un personnage et après, il existe en lui-même, ce personnage. Même des fois, il nous dépasse un peu, il s'impose un peu à nous, quoi. Tel personnage, il est comme ça, il va faire ça. Donc il y a ça aussi, quoi. On suit aussi l'avancée des personnages, mais voilà, moi j'ai quand même ces grandes lignes qui me permettent de dire quelque chose. C'est vrai que dans chaque livre, j'ai certainement, j'espère pas avoir une morale ou une leçon à donner, mais en tout cas, j'essaie de dire quelque chose. J'aborde un sujet et même si... Hey, Basile. coucou. Pardon, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Ah ouais, si je peux emmener le lecteur à se questionner sur ce sujet, voilà, ça c'est super. C'est ce que...
Féminisme,
ouais, bon, souvent le féminisme. mais... non, alors dans Un beau voyage, excuse-moi.
Ah, ça, on peut pas blaguer.
Non, ça m'a fait rire parce qu'Un beau voyage, on rigolait avec les copines en disant qu'il passait même pas le test de Bechdel, quoi. Après, on rigolait, c'est vrai. Et après, on rigolait en disant qu'en fait, on ne sait pas vraiment si ces personnages sont des hommes ou des femmes, parce que ce n'est pas très clair.
Non.
Mais après, si on suit quand même la tradition du voyage en mer, c'est quand même plutôt des hommes, quoi. logiquement.
Oui. Hein?
Voilà.
Oui. Mmh. Et du coup, tu passes par le dessin, la narration, je sais pas, enfin comment tu...
Ouais, alors
recherche là, tu vois, tu
ouais, et là c'est marrant, je pense que avec Sophie on se ressemble un peu là-dessus d'ailleurs, je pensais pas, tu vois. mais c'est pareil, moi j'ai un gaufrier, ouais. Et je remplis mon gaufrier effectivement avec ces mêmes questions de rythme. Ouais. Et ah ouais, bah, tu vois, toi tu le savais.
Ouais.
Ouais, c'est marrant. Ouais. Et voilà, donc pareil avec la même problématique de rythme et de. Mais d'arriver quand même à la fin des 9 cases, ou, enfin à la fin de la séquence, quoi. Ouais.
Et justement, sur la. Enfin, j'ai l'impression que dans certaines BD, il y a aussi une certaine lenteur, dans certaines. Enfin, en tout cas, Un beau voyage où on prend le temps. On prend vraiment le temps, oui. Tout ça, et ça c'est un parti pris. Enfin, je veux dire, tu as envie aussi de.
Eh ben, ça c'est que je sais pas faire autrement en fait. Et donc c'est pour ça. Alors ça commence à m'agacer à chaque fois que je fais un bouquin, il fait toujours 250 pages parce que j'arrive pas à être un peu plus vive dans la narration. Je suis quand même, j'ai une narration qui est très lente. Et oui, où je prends beaucoup le temps, mais bon, j'aime bien ça aussi, quoi, que ça prenne le temps et puis qu'on voit les choses avancer lentement. Ça permet aussi de comprendre des trucs. Il y a beaucoup de non-dits, dans mes livres. Et donc, cette lenteur, elle permet d'avoir ça aussi, quoi, des moments d'arrêt, des personnages où j'aime bien, j'ai envie aussi que le lecteur ait une grande place là-dedans. Donc c'est pour ça que je sais pas, peut-être particulièrement Le vol nocturne, bon, il y a des lecteurs qui sont frustrés, quoi, qui me disent qu'ils n'ont pas compris, que pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Bon, moi je leur dis, je sais pas, c'est pas mon problème en fait. Non mais c'est vrai, parce que moi je l'ai pas fini l'histoire. Enfin, où elle n'est pas clairement finie, où il n'y a pas clairement une chute, mais c'est volontaire. C'est parce que bah, justement, cette chute, on ne la connaît pas. Et donc, moi, le lecteur, il ne la connaît pas, mais moi, je ne la connais pas non plus. Et c'est ça qui est bien, c'est que... Ou alors, je la connais, ou alors, je peux la connaître, ou alors, je peux l'imaginer. Et le lecteur, il peut imaginer autre chose. Et
ouais. Tu laisses ouvert.
Ouais.
Le lecteur s'empare, quoi, de...
Ouais, j'aime bien ça, et c'est vrai que ça m'embête pas du tout de parfois de laisser un truc en plan et de pas savoir ce que mon personnage il en fait. Voilà.
Comment tu ressens ton évolution par rapport au premier Orlando et maintenant, où là du coup tu es en train de faire t'as une BD qui sort
le mois prochain,
c'est ça, et comment tu te situes, ouais, enfin, par rapport à ton travail, à tes personnages qui ont évolué, est-ce que
je sais pas trop te répondre à ça. Je pense que j'ai eu une évolution un petit peu au niveau du dessin. Qui s'est vu peut-être jusqu'au vol nocturne, où j'ai de plus en plus développé mon dessin, je pense. Enfin, travaillé dessus en tout cas, essayer de le rendre plus graphique. Et puis après, ben, avec Le beau voyage, j'ai un peu cassé ce truc-là en allant dans un truc hyper minimaliste. C'est un peu aussi le cas dans le bouquin qui va sortir là en avril. C'est quand même très minimaliste. Et là, de nouveau, j'ai envie de travailler un peu plus mes pages. Donc voilà, j'ai un peu des allers-retours au niveau du dessin. Ouais. Et après, au niveau de la construction des livres, ouais, par contre, là, j'ai bien évolué parce que mes premiers, quand même, Orlando ou En temps de guerre et même L'Odyssée du vice, j'y allais plus... Voilà, je partais, puis je savais pas où j'allais, quoi. Ouais. Et alors que maintenant, effectivement, j'ai plus cette espèce de méthode un peu maniaque dont j'ai parlé tout à l'heure.
Du coup, c'est des bouquins de 250 pages maintenant.
Bah, avant aussi, hein. Enfin, ouais, non, En temps de guerre, il est plus petit. Mais bon, Orlando, c'était déjà un gros machin. Ouais.
Et est-ce que tu veux nous parler de ton prochain livre un peu ? Enfin, je sais pas si tu veux...
Ouais. Eh ben, donc, il va sortir le mois prochain. J'espère qu'il va être beau, bien imprimé. Et donc, ce sera 10 histoires. Donc, c'est sur une thématique qui est... ce sont des femmes qui font des saisons de travail. Voilà. Donc, à chaque fois, il y a une femme différente, il y a un déplacement et il y a un travail différent. Et donc, c'est 10 histoires de 22 pages chacune. Et là, ce qui était super, c'est que j'ai vraiment travaillé l'histoire plus courte, donc comme la nouvelle, quoi. Donc là, par exemple, j'ai pas vraiment sur la thématique... C'est pas tellement sur la thématique que j'ai fait des recherches, c'est plutôt sur l'exercice de la nouvelle. Donc j'ai lu énormément de nouvelles, et ça c'était hyper intéressant, parce que ça change tout, quoi, d'avoir un personnage qu'on garde que sur 22 pages. Et donc, selon les auteurs, c'est génial de voir comment, dans des récits courts, on crée un personnage, on installe une situation, une ambiance et tout, et finalement qui va s'arrêter assez vite. C'est vraiment la particularité de la nouvelle, c'est qu'on coupe le récit, quoi. Ça s'arrête, et justement là, il y a cette grande place pour au lecteur qui va imaginer la suite. C'est quand même souvent ça dans la nouvelle, ça s'arrête à un moment. Et donc il y a la question de comment j'arrête, pourquoi j'arrête à ce moment-là. Voilà, quel moment je choisis pour arrêter ma narration et pour que le fait d'arrêter à ce moment-là, ça va parler de tout ce qui s'est passé avant, ouais. En fait. Donc voilà, ça c'était un truc que j'ai trouvé hyper intéressant.
Moi j'avais une question pour vous deux. Alors cette semaine, il y avait la journée internationale des droits pour les femmes. Je ne sais plus le terme exact, mais pour moi je dirais plutôt des droits que le droit. Aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation autour de la réforme des retraites qui, on sait, pénalise a priori plutôt les femmes. Et ça m'a amené à me demander si vous pouvez nous parler un peu concrètement de votre métier d'autrice de bande dessinée. Quelles difficultés vous rencontrez éventuellement, ou quel bonheur vous rencontrez éventuellement. Voilà, on n'est pas obligé de parler de... D'une affaire dont on a beaucoup parlé dans les médias récemment.
Ah non, je pensais pas à ça. Non.
Mais est-ce que y aurait... Voilà, y a quand même une particularité à être autrice de bande dessinée aujourd'hui. Peut-être moins qu'il y a 20 ans. C'est peut-être moins bizarre qu'il y a 20 ans. Mais c'est pas non plus encore... on n'est pas encore... c'est pas non plus un métier où vous seriez sur un pied d'égalité avec les auteurs, j'ai l'impression.
Ouais.
Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, vous n'êtes pas obligé. Hein.
Non, si, moi, je peux réagir. Sans vouloir justement parler de ça. Moi, je suis dans un milieu BD très indé. Sophie aussi. Enfin, en partie, en tout cas. Et c'est vrai que j'avais tendance à me dire que c'était un peu un milieu bisounours, que en fait on était bien les femmes là-dedans, qu'on avait notre place, qu'on était dans la BD indé, il y a beaucoup de femmes, quoi, jeunes. Voilà, j'avais une vision un petit peu, je sais pas, peut-être un petit peu naïve du truc. Et donc effectivement, les événements récents m'ont foutu un grand coup dans la gueule. J'ai pris cher, voilà, je ne vais pas développer. Sophie.
Non, je ne vais pas développer ça non plus. Mais moi, j'ai l'impression inverse de toi, parce que quand j'ai démarré, je me sentais très seule. Même quand j'étais à l'école, aux arts déco, j'étais presque la seule fille à faire de la BD dans la classe. Et vraiment, il n'y avait que des mecs, et les éditeurs aussi n'étaient que des mecs. Enfin, c'était vraiment hyper oppressant, en fait. Et quand je disais aux gens ce que je faisais dans la vie, il y avait comme une sorte de petit froid. Par contre, des fois, je disais je suis illustratrice jeunesse, et là, ça passait beaucoup mieux. Quand j'ai passé mon permis, j'ai essayé plein de moniteurs différents, parce que ça a été une longue histoire. Et en fait, ils étaient tous un peu méprisants. Quand je disais que je faisais de la BD, ça se passait très très mal. Et quand je disais que j'étais illustratrice pour les enfants, alors ça va. Mais bon, enfin bref, il y avait ce truc, et c'est vrai... Et en fait, je me suis posé la question de savoir si j'allais aborder ce sujet. Je me sentais presque obligée de le faire parce que on m'en parlait quand même souvent. Je me suis dit, est-ce que c'est mon devoir de parler de ça ? Et je me suis dit que mon féminisme à moi, ça allait être de ne pas en parler parce que je n'en avais pas envie et que j'avais le droit. Et que ça faisait partie, voilà, de mon droit de faire comme si j'étais un mec et de parler de ce que j'avais envie de parler. Voilà. Après, tu me parlais avant l'interview, là, hier... De la différence aussi, comme dans plein d'autres métiers, du fait d'avoir des enfants et que du coup, ça. Voilà, on a le même problème que dans les autres corps de métier où on est plus nombreuses à s'occuper presque entièrement des enfants. Voilà. Donc. Mais je crois que c'est pas spécifique du tout, donc voilà.
Heureusement.
Je me demandais s'il y avait des thèmes que tu avais envie d'aborder et que peut-être tu n'avais pas osé ou alors pas encore eu le temps de faire, voilà.
Il y a plein de thèmes. J'ai encore le temps de faire plein de trucs. J'espère.
J'ai 69 ans.
Alors là, par contre, te dire lesquels tout de suite... Si, par exemple, là, je sais quel va être le thème du futur, quoi. Voilà. Et ce sera sur une vieille. Voilà. Et là, je voudrais faire... je vais voir. Je viens juste de commencer. J'ai envie de faire un truc un peu plus humoristique. Alors, ouais, mais c'est intéressant. C'est super ce que dit Sophie par rapport au féminisme, de, effectivement, pas se sentir obligée. C'est très bien. Et... Alors, moi, je me sens pas obligée non plus, mais par contre, c'est vrai que quand je regarde l'histoire, ce qu'on apprend à l'école et tout, et puis il y a tellement de blancs là-dedans, de trous énormes en ce qui concerne l'histoire des femmes, que moi, c'est vrai que j'ai vachement envie de parler de ça, quoi. De pas combler, parce que je vais rien combler du tout. En plus, je fais pas des livres historiques ou pédagogiques ou quoi, mais voilà, je me dis, il y en a eu tellement, des trucs d'aventure avec que des mecs. Voilà, maintenant, on peut y aller tranquille. Enfin, c'est sans fin, quoi. Je veux dire, c'est un sujet, c'est infini. On peut tout raconter. Enfin, revenir sur chaque époque, sur chaque pays, et puis il y a des trucs hyper intéressants à raconter, en particulier sur l'histoire des femmes. Ouais.
Vous avez toutes les deux parlé de vos gaufriers, là, je connaissais pas ce terme, et je me disais, mais pourquoi vous vous enfermez dans un truc comme ça ? Enfin, pourquoi vous vous donnez des contraintes aussi précises, 6 cases, 22 pages ? Pourquoi vous vous laissez pas plus de liberté ?
Si on n'a pas envie. D'être libre.
Moi, j'ai une réponse.
Hein. Alors, donne ta réponse. Oui, si, j'en ai une, mais vas-y.
Ma réponse, c'est que maintenant, je travaille sur iPad, donc c'est différent. Mais au début, j'étais à la main et j'avais pas du tout envie de tracer les cases. C'est très pénible. Donc, en fait, j'avais un gaufrier et j'ai imprimé mes gaufriers à l'avance. Voilà. C'est par flemme. Donc, tu as une autre réponse, toi.
Moi, c'est plus peut-être pour éviter la page blanche, je dirais. Et donc, très longtemps, j'ai travaillé comme ça. Je continue. Et donc, c'est la première chose. Alors, tout le monde me dit, mais Delphine, imprime ton gaufrier. C'est toujours le même depuis, depuis 10 ans. Et ben non, moi, je le refais à chaque fois. Voilà. Et alors, parfois, je sais pas, des jours où je suis pas en forme, par exemple. Je vais faire que des gaufriers. Et je sais que j'en ai en avance. Et après, je prends ma page, mon gaufrier, et ça me cadre, en fait. Je sais, je pars pas dans le vide, quoi. Je sais que maintenant, je dois remplir ce machin-là. Et ça me rythme aussi, parce que en fait, c'est un rythme. Tu vois, ça pourrait être comme en poésie. Et c'est vrai que c'est bien de parler de poésie, de musique et tout, parce que c'est vachement important, l'histoire du rythme. Et donc, ouais, des haïkus et tout, c'est vraiment ça. Après, tu te dis, bon, ben voilà, j'ai neuf temps. Voilà, je suis sur un truc de neuf temps. Et ben, comment je le remplis ? Avec des moments rapides, des moments de texte, des moments de vide. Voilà. Et après, tu continues neuf temps avec tant de pages. Et après, tu peux avoir... Moi, j'ai l'impression de faire souvent ça, d'avoir comme des refrains, tu vois, des trucs qui se répètent souvent, des trucs qui reviennent. Et puis, hop, le couplet, ou là, hop, on passe à autre chose. Et puis, voilà.
Voilà. Ah. J'espère qu'elle est pas bête parce que je découvre ton travail à l'occasion du festival. Je me demandais si Panique c'était un pseudo.
C'est tout à fait.
Et du coup pourquoi Panique?
Oh là là. Alors c'est tout à fait un pseudo et par contre je ne réponds pas à cette question car elle est intime et bête.
D'accord.
Pas la question, la raison.
Guérif, c'est un pseudo? Question bête. Spiros me suggérait de lire une page, mais en fait c'est très compliqué de lire une BD pour la radio et sans l'image, parce qu'il faut dire qui parle à chaque fois. Alors je peux essayer, mais ça risque d'être un gros flop de. Je peux essayer. Alors Tulip qui dit, il y a un groupe de défense des droits des oiseaux, tu devrais participer. Il dit ça à Violette. Violette lui répond, je préfère chercher des graines. Tulip. Mais ça te concerne, t'es un oiseau, Tulip. Violette. Oui, je me suis trompé. Bien vu. Et je crois que nous sommes tellement égaux que tout comme toi, j'ai le droit de m'en foutre complètement. Donc c'est en écho à la discussion de tout à l'heure. Ouais, après on peut chercher dans les BD, dans vos BD, les échos à tout ce que vous avez dit. Je pense qu'il y en a énormément. Vous êtes over-cohérente. Ben, merci beaucoup.
Merci.